à voix nue. Toute cette semaine, Claire Pouliborgeau rencontre Francine Leca. Ce soir, naissance d'une passion.
Bonsoir Francine Leca.
Bonsoir.
Professeure de médecine, première femme chirurgien cardiaque en France, vous êtes connue du grand public pour votre action auprès des enfants malades du cœur au sein de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. Vous receviez beaucoup de courriers à l'hôpital, des lettres de médecins, de parents, d'enfants du monde entier qui ne pouvaient pas être soignés dans leur pays et qui vous demandaient une opération du cœur. C'était pour eux une question de vie ou de mort, mais c'était aussi une question de moyens et d'argent. Rien ne vous arrête et vous créez donc en 1996 votre association qui s'est beaucoup développée depuis 20 ans, car aujourd'hui, ce sont plus de 200 enfants qui sont pris en charge chaque année. Nous pourrions choisir, Francine Leca, de développer exclusivement la chronologie de tout ce que vous avez accompli en 40 ans de carrière. Vous avez opéré plus de 6000 jeunes, vous avez beaucoup travaillé en tant que chef de service de chirurgie cardiaque à Paris, d'abord à l'hôpital Laennec, puis à l'hôpital Necker. À bientôt 78 ans, vous opérez encore, vous courez par monts et par vaux pour récolter des fonds, vous soutenez votre équipe, les familles, les patients. Nous comprenons que pour vous, l'enjeu est ailleurs. Et ce qui vous guide n'est pas une question de carrière, mais une question de cœur. Vous êtes Francine Leca, une femme de passion. Nous allons donc, tout au long de cette semaine, et en 5 entretiens, saisir ce qui vous anime, ce qui nourrit cette formidable passion, et d'abord, ce qui a fait naître votre vocation. Vous êtes née, Francine Leca, en 1938, dans une famille que vous qualifiez vous-même de bourgeoisie humaniste, et qui vous a apporté un certain nombre de valeurs, qui vous ont certainement servi à vous construire dans la vie et dans votre métier. Pourriez-vous nous éclairer sur cet héritage moral et affectif?
Oui, tout à fait. Merci d'abord pour cette présentation très élogieuse et très charmante. Vous mettez le point d'emblée sur quelque chose d'essentiel, je pense, dans la vie, et en tous les cas qui a été essentiel dans la mienne, ce sont mes parents, c'est-à-dire effectivement l'éducation, le milieu familial. Je pense qu'ils m'ont l'un et l'autre apporté tellement de choses que quand j'y pense, j'en suis vraiment émue et hyper reconnaissante. Ma chance, elle a débuté comme ça. Avec un papa que j'ai perdu il y a 20 ans maintenant, qui était un homme extraordinaire, qui avait une personnalité magnifique. Une maman qui était la vraie maman, la douceur, l'attention, une fratrie. Enfin, merci mon Dieu, merci de m'avoir donné ça. C'est vrai que ça construit un enfant, c'est évident. Avec attention, de l'autorité. C'est un mot que j'aime beaucoup aujourd'hui, l'autorité. Vous savez, par moments, on se passionne pour un mot, une expression, un sentiment. Je pense que l'autorité aide les hommes. Elle ne les brime pas. Enfin, une autorité bien jugulée, bien adressée, naturellement. Mais elle ne bride pas. Elle aide, je pense, à la construction des hommes et des femmes. Je pense que c'est important, l'autorité. Et ça commence avec les parents. Des parents laxistes, ça va donner des enfants, entre guillemets, mal élevés, au sens large du terme. Moi, j'ai une éducation, je dirais pas sévère, mais assez stricte, parce que mes parents, et en particulier mon père, avaient beaucoup d'autorité. Quand ils disaient quelque chose, c'était comme ça, on discutait pas. Mais c'était fait avec tendresse, c'était bien fait. Enfin, je le pense ainsi et je l'ai toujours ressenti ainsi.
Votre père aussi, qui avait la passion de la chasse, de la pêche, il vous a emmené
un peu partout. Ah oui, c'était un homme de nature, c'était un homme de tout d'ailleurs. Il était vraiment assez extraordinaire. Comme vous dites, il aimait beaucoup les sports de nature qui sont beaucoup moins à la mode, entre guillemets, aujourd'hui. Tout évolue dans la vie, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'ai appris avec lui la pêche en particulier. Il aimait ça passionnément. La pêche à la mouche, qui est une très plaisant, très plaisant. Il y a de moins en moins de poissons, mais c'est très plaisant. Et puis, c'est un sport raffiné, c'est un sport élégant, c'est un sport où on a le temps de réfléchir, où on a quand même des émotions quand on voit la truite qui va venir gober la petite mouche, le tout habituellement dans des paysages à la fois paisibles, vivifiants. C'est un sport qui n'est pas très connu, mais qui est très plaisant.
Et votre mère qui vous a suivi tout au long de votre vie, même professionnelle, qui vous a beaucoup aidé et que vous appelez votre éclaireur.
Ah maman, ben vous savez que ma maman vit toujours, elle a 99 ans, elle est fort malade en ce moment. Et c'est d'ailleurs ma grande préoccupation du moment, c'est elle est toujours là avec sa tête, mais avec un déficit au niveau des membres, de l'audition, de la vue. Et ça me fait beaucoup, beaucoup réfléchir, justement, actuellement, sur le problème de la vieillesse, qui est un problème qui ne va faire qu'augmenter dans nos pays, parce que, bon, c'est vérité de la palisse que de dire on vit tous de plus en plus vieux, mais à partir d'un certain moment, on devient dépendant. La dépendance est une chose terrible, c'est terrible pour ceux qui la vivent, c'est terrible pour ceux qui entourent la personne dépendante, parce qu'on ne peut plus la quitter, parce que si on la quitte, c'est la fin. Ces personnes très âgées ne peuvent survivre que très entourées, sinon c'est le désespoir, c'est la fin. Donc c'est un problème qui me touche énormément en ce moment, tout simplement parce que je le vis. Que de ce fait, j'ouvre les yeux sur ce qui se passe à droite, à gauche, tous ces gens tellement dévoués qui s'occupent des personnes âgées, mais ils ne sont pas assez nombreux, ces maisons qui sont inévitables pour beaucoup de familles et qui ont souvent des très belles structures avec un personnel là encore dévoué, mais vous pouvez pas tenir 12 heures par jour la main à une vieille dame ou à un vieux monsieur, donc il y a des moments de grande solitude. Il faudrait qu'il y ait des associations qui décident d'aller s'occuper justement des personnes âgées. Il y a beaucoup d'associations qui s'occupent des enfants. Moi, je me rappelle quand j'étais chef de service à Necker, j'avais énormément d'associations qui venaient pour venir jouer avec les enfants, aider les enfants. C'est magnifique, c'est très bien. Mais, comment vous dire, c'est les vieux qui ont besoin plus encore que les enfants.
Et c'est votre mère, encore une fois, qui vous permet de réfléchir, qui vous apporte. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans votre vie une certaine...
Oh ben l'amour, avant toute chose. L'amour. Comment dire, dévouée, ça paraît, c'est pas un très bon terme. Non, attentive à ses enfants, tournée vers eux à tout point de vue pour qu'ils réussissent dans leurs études, pour que... aidante, présente. Oui, c'est formidable, ça.
Enfant, vous étiez, Francine Leca, un peu garçon manqué, assez meneuse de jeu, un brin autoritaire, on parlait d'autorité.
Très autoritaire, c'est pour ça que je disais que l'autorité paraît une chose excellente.
Vous
m'avez percé à jour. Hein.
Voilà, vous habitiez à Neuilly, mais vous avez passé beaucoup de vacances merveilleuses au bord de la mer, c'était au Crotoy. Qu'est-ce que vous avez puisé dans cette enfance? Un équilibre, une vitalité, une liberté aussi qui vous a guidé par la suite?
Oui, liberté est un mot qui convient bien parce que... Et c'est ça, a posteriori, que je trouve assez formidable, c'est que j'avais à la fois une éducation très structurée et, comme je vous le disais, assez autoritaire, fallait filer doux, et en même temps une profonde liberté. Profonde liberté. J'ai dit, je veux être chirurgien. Très bien, ma fille. Il n'y avait pas, vous voyez ce que je veux dire, pas d'entrave, pas de blocage, pas tu ne vas pas faire ci ou tu ne vas pas faire ça. Non. Au quotidien, des respects, des choses qu'il faut faire au quotidien, dans une famille, dans une société, avec les barrières, avec les limites, avec les indications, avec les sévérités quand ça n'est pas bien fait. Mais au-delà de ça, une liberté d'esprit immense.
Vous avez toujours eu d'ailleurs, Francine Leca, cette liberté d'esprit. Vous étiez même parfois un peu rebelle. Vous avez été renvoyée d'instituts, de Sainte-Marie-de-Neuilly.
Ça vous amuse toujours beaucoup de dire que j'étais renvoyée de l'école. C'est pas glorieux, je vais pas m'en glorifier.
Non, mais vous êtes un petit peu fantasque au-delà de cette rigueur de médecin, de chirurgien. Est-ce que vous avez aussi ce côté
Oui, fantasque,
original.
je sais pas. C'est bien d'être... Je suis pas sûre que je sois fantasque, parce que c'est plutôt un joli mot, fantasque. C'est-à-dire que on a plein de choses dans la tête, plein d'idées, plein d'innovations. Donc c'est plutôt un joli mot pour moi, que je ne mérite peut-être pas, parce que... Non, j'étais tout simplement pas très sage, quoi. J'aimais jouer, j'aimais m'amuser. D'ailleurs, j'aime toujours m'amuser. S'amuser, c'est très important dans la vie. Non, mais c'est vrai.
Vous aimiez piloter, aimiez faire de la moto.
Bien sûr, faire tout. Je voyais quelque chose, je voulais le faire. Voilà, c'était plus que ça. Dans Fantasque, il y a de la spiritualité, il y a de l'originalité, il y a un petit peu de culture, il y a beaucoup de choses. Non, moi, c'était plus simple que ça. Je voulais jouer. On dit jouer pour les petits, on dit s'amuser pour les plus grands. Et ce n'est que le jour où j'ai compris que je voulais être médecin que je me suis mis à travailler, finalement.
Oui, et ce tempérament... joueur, est-ce qu'il a fallu le canaliser ? Est-ce qu'il vous a aidé dans votre métier ? Au contraire, il a fallu le tempérer ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Quand vous avez un enfant qui travaille pas bien à l'école parce qu'il pense qu'à s'amuser, bien sûr qu'il faut le canaliser. Mais j'ai été canalisée. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte par moi-même que si je voulais faire le métier dont j'ai eu envie, il n'y avait pas d'autre solution que de travailler. Donc voilà, j'ai travaillé. Ça n'a pas été un problème d'ailleurs.
Alors comment le choix de la médecine a-t-il germé dans votre esprit ?
Ah, il y a longtemps, je ne me rappelle plus ponctuellement comment ça s'est passé. L'idée de pouvoir aider, c'est quelque chose de très plaisant. Pouvoir rendre service, pouvoir aider. Et je dois dire que très très vite, la médecine pour moi, ça a signifié la chirurgie. C'est ça qui est curieux. J'avais envie de faire de la chirurgie. C'est pas en cours de route que je me suis dit, tiens, si je faisais de la chirurgie. J'ai fait ma médecine pour faire de la chirurgie.
Et vous aviez des exemples autour de vous
comment... Pas du tout. J'ai pas un médecin dans ma famille. C'est ça qui est extravagant quand j'y repense.
Commencez-vous vos études de médecine rue des Saints-Pères à partir de 1956-57. Qu'est-ce que vous retenez de ces études de médecine ?
J'ai adoré, c'est formidable. Être étudiant, c'est un merveilleux moment dans la vie. Et je dis toujours aux jeunes, mais pour l'amour du ciel, profitez de vos années d'études, c'est fantastique, on apprend tous les jours. On avance dans la connaissance... On découvre le monde, c'est merveilleux les années d'études. Moi, je m'étais destinée, comme ça, dans ma tête, à faire la chirurgie de la main. Ça me plaisait bien, c'était une chirurgie, j'en avais vu un petit peu, et puis je trouvais que c'était quelque chose d'assez fin, et puis la main, c'est quand même quelque chose de précieux, on dirait tout est précieux dans notre corps, mais ça me plaisait bien. Et à l'époque... Je pense que ça a un peu changé maintenant. On retenait sa dernière année. On avait le droit d'avoir un choix définitif pour la dernière année de cet internat qui durait 4 ans. Donc j'avais choisi mon service, très réputé à l'époque, de chirurgie de la main en particulier. Orthopédique, mais axé sur la main. Et en début d'internat... on n'a pas le choix, on prend les services qu'on vous propose. Et à l'époque, la chirurgie cardiaque en était quand même, je dirais pas assez balbutiement, puisque la chirurgie cardiaque a débuté entre les années 38 et 45 aux États-Unis, puis elle est venue en France. Enfin, vous voyez, c'était pas une chirurgie très ancienne quand même. Ce qui fait que la chirurgie cardiaque n'était pas un stage qui était très prisé par les internes, les futurs chirurgiens qui voulaient faire du digestif, de l'orthopédie, enfin des choses plus classiques. Et puis j'ai choisi ce stage, parce qu'à l'époque, un garçon que j'aimais beaucoup, qui a été mon patron ensuite, Jean-Yves Neveu, était mon conférencier d'internat, il était brillant, il était chirurgien cardiaque. Et tant qu'à pas avoir trop de choix, bah, j'ai dit je vais aller, c'était à l'époque à l'hôpital Laennec, je vais choisir le service de chirurgie cardiaque à l'hôpital Laennec. Puis je dis c'est bien, quand on fait de la chirurgie, savoir comment fonctionne le moteur, c'est pas plus mal. Et alors là, je peux vous dire vraiment, quand on parle de coup de foudre, ça a été le coup de foudre. Ça, je me rappellerai, moi qui n'ai pas beaucoup de mémoire, je me rappellerai toute ma vie, ma première rentrée en salle d'opération de chirurgie cardiaque. C'était impressionnant. Pourquoi impressionnant ? D'abord le nombre de personnes. Vous savez que pour une intervention de chirurgie cardiaque, au moins une dizaine de personnes dans la salle d'opération. Parce qu'il y a les chirurgiens, il y a l'anesthésiste, il y a les gens qui font fonctionner la circulation extracorporelle, le cœur-poumon artificiel, il y a les penseuses, il y a l'enregistrement de l'électroencéphalogramme. Vous rentrez déjà, il y a un monde fou. En plus, à l'époque, ça ne se fait plus aujourd'hui, mais à l'époque, pour améliorer l'écoulement du sang veineux, la table d'opération était montée sur une estrade, alors vous imaginez, c'était... Bref, je vois ça, et alors là j'ai vu un cœur s'arrêter, j'ai vu les chirurgiens réparer ce cœur, et j'ai vu le cœur se remettre en route. Ils ont dit un coup de foudre, ça, tout le monde comprend bien ce que ça veut dire. De cet instant j'ai dit bon, chirurgie de la main me plaisait bien, mais là je vais faire de la chirurgie cardiaque. Et voilà.
Une véritable révélation.
Oui, ça m'a plu énormément.
Et ça, c'était en 1968, donc pour vous, cette année ne rime pas avec révolution, mais avec cette première opération à laquelle
oui,
vous assistez.
Oui, je me rappelle mai 68, je me rappelle très bien, j'étais à l'Hôtel Dieu, donc j'avais été d'abord à mon stage de chirurgie cardiaque, et puis ça devait être mon deuxième stage, j'ai plus une grande mémoire des années, et effectivement, j'étais à l'Hôtel Dieu pendant mai 68, je me rappelle de ça. On suivait ce qui se passait. Moi, je n'ai pas un tempérament révolutionnaire, donc je n'ai pas défilé dans la rue. J'ai été voir, bien sûr, un peu ce qui se passait dans les amphis, dans tout ça. Mais je n'ai pas un tempérament révolutionnaire. Je suis assez classique.
Quand vous dites que la chirurgie cardiaque en était à ses balbutiements, c'était quand même aussi une époque où il y a eu un essor avec cette circulation extracorporelle, il y a eu tout un développement de la chirurgie, c'était quand même passionnant. Vous aviez choisi la discipline passionnante des années 50-60.
Ah oui, mais elle est toujours passionnante. Mais c'est vrai que quand on reprend sans faire un cours de chirurgie cardiaque, c'est intéressant de rappeler quelques dates parce que nous nous rendons compte que cette fameuse chirurgie cardiaque qui sauve tellement d'enfants et d'adultes, en 1938, qui est, comme vous l'avez fait remarquer, la date de ma naissance, a eu lieu le premier geste. Oui, c'est quand même pas très, très vieux. Et ce geste, c'était même pas à l'intérieur du cœur. On ne savait pas encore arrêter le cœur. C'était en périphérie du cœur, où on allait couper un petit canal qui n'avait pas disparu comme on l'aurait dû le faire à la naissance, qui s'appelle le canal artériel. Donc ça, c'était en 1938. Et ce n'est qu'en 45 qu'on a, grâce à la circulation extracorporelle, c'est-à-dire cette machine qui va permettre de remplacer le cœur et les poumons pendant une heure, deux heures, trois heures, le temps nécessaire à l'opération. C'est aux États-Unis avec un médecin qui s'appelait Gibbon qu'elle a vu le jour. Et ça, c'était extraordinaire, extraordinaire. Il y avait eu avant ça, avant la circulation extracorporelle, il y avait eu quelques tentatives pour pénétrer dans le cœur en ayant recours soit à l'hypothermie, Mais ça serait trop long de vous expliquer tout ça, bien sûr, mais c'est-à-dire en refroidissant le cœur, on protège les tissus et on peut arrêter le cœur pendant mais quelques minutes seulement, donc beaucoup trop court pour faire de grosses opérations. Et alors le plus extraordinaire de tout, et il y a eu quelques succès, c'est ce qu'on a appelé la circulation croisée. C'est-à-dire c'était un parent de l'enfant qui, par tout un système de tuyaux qui allaient de l'un à l'autre et qui s'entrecroisaient, assurerait la survie de l'enfant le temps qu'on opère son cœur. C'est la circulation croisée. Que les hommes aient tenté ça, je trouve ça incroyable et fou. Et puis est survenue cette fameuse machine qui n'a pas beaucoup changé, elle s'est améliorée, mais le principe est resté le même depuis le début, c'est-à-dire vous avez une pompe qui va remplacer le cœur, puisque le cœur c'est une pompe, et un oxygénateur qui va remplacer les poumons. Car qu'est-ce que c'est que l'ensemble cœur-poumon ? C'est le cœur qui va pulser, les deux cœurs, hein ? Nous avons deux cœurs. Les deux cœurs vont pulser le sang, un va pulser du sang pauvre en oxygène dans les poumons, pour que justement les poumons transforment ce sang pauvre en oxygène en sang riche en oxygène. Ce sang riche en oxygène arrive dans le deuxième cœur, qui va l'envoyer, à ce moment-là, ce sang bien rouge, bien oxygéné, va l'envoyer dans tout notre organisme. Et puis, entre-temps, tous les organes, toutes les cellules pompent l'oxygène, le sang petit à petit perd son oxygène, qu'à cela ne tienne, il remonte par le système veineux, et ça recommence. C'est un 8 de chiffres absolument fabuleux, avec une fréquence de 70, 80, 90 à la minute. C'est merveilleux comme organisation, comme système. Mais c'est reproductible en artificiel. La preuve, c'est qu'on sait fabriquer depuis 1945 la pompe qui va remplacer le cœur, et l'oxygénateur qui va mettre l'oxygène en contact avec le sang veineux pour qu'il se charge en oxygène.
Vous en parliez comme une œuvre d'art. Vous...
C'est magnifique, attendez, c'est extraordinaire, vous vous rendez compte?
Vous nous avez parlé de Jean-Yves Neveu. Il y a aussi, à l'époque, le professeur Mattet à la
ENET. Ah, ben bien sûr, ça a été
donc,
mon grand
vous avez
patron,
eu des mentors, des gens que vous avez admirés.
Oui, Neveu était un des élèves de Mattet. J'ai cité Neveu parce que je l'avais rencontré en tant que conférencier d'internat et que c'est en partie pour ça que j'ai été en chirurgie cardiaque à la ENET. Mais c'était effectivement le service du professeur Jean Mattet, qui est un homme formidable, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et qui dirigeait le service de chirurgie cardiaque. Ça a été aussi un des précurseurs.
Est-ce que vous aviez besoin d'admirer ces personnes pour vous lancer dans cette discipline ? Est-ce que vous avez besoin d'admirer pour suivre, pour...
Oui, mais vous revenez, je vois que c'est une question qui vous tient à cœur. C'était tout à l'heure, quelle était la maîtresse que j'ai
pas
appréciée.
La maîtresse, oui.
Vous assistez. Vous n'avez pas tort, et en même temps, c'est pas le. J'ai aimé et admiré ces deux hommes, comme un certain nombre d'autres. On pourrait citer Georges Lemoine, qui était un des précurseurs de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Bien sûr que j'ai de l'estime et de l'admiration pour plein de personnes qui sont des gens formidables. Mais c'est pas pour ça, c'est pas pour ça.
C'est
pas
parce que c'est la vie,
ce qu'il
la
est
vie
formidable,
est
ma maîtresse de français est tellement gentille, je vais faire du français. C'est pas ça. C'est pas pour faire comme ces hommes, je les admirais, je les estimais, je les aimais, mais c'est pas du tout en me disant oh, je veux faire comme eux. Non, c'est l'acte chirurgical en lui-même, c'est de se dire que attendez, vous voyez un cœur qui s'arrête, vous réparez, vous bricolez, et puis une heure après ou deux heures après, il repart. Alors qu'il a été arrêté pendant une heure. Ou deux heures maintenant, ou trois heures s'il faut. Il ne faut pas que ce soit trop long. Alors, parce que quand c'est trop long, il y a d'autres problèmes, bien sûr. C'est une chirurgie, il faut quand même toujours penser au temps. Vous pouvez pas aller fumer une cigarette entre deux. Faut toujours penser à ne pas perdre de temps.
Vous prêtez votre serment d'Hippocrate, Francine Leca, en juin 1971. Est-ce que c'est un souvenir émouvant pour vous ?
Oui, tout à fait. Je ne savais plus du tout que c'était en 71, mais le serment d'Hippocrate est magnifique. Un très, très beau serment. Tout est dit sur la profession médicale. Et je l'ai prononcé, bien sûr. Je l'ai entendu parce que j'ai fait passer des thèses. Vous savez, dans la vie, on est d'abord l'élève, puis on est le professeur. Et chaque fois que j'entendais ce serment, c'est un des classiques, quand on devient médecin, on fait ce serment, et je le trouve très beau, très profond, très... faut le suivre.
C'est pas un métier comme un autre.
Non, c'est pas un métier comme un autre. Non.
C'est-à-dire, c'est une vocation plus qu'un métier?
C'est un petit peu pompeux de vous dire oui, mais j'aime pas trop les expressions trop, vous voyez, vocation, tout ça. Mais oui, quand même, c'est moi, vous voyez, quand je vois des jeunes qui veulent faire médecine ou qui sont au début de leurs études de médecine, je leur dis toujours, vous savez, c'est un super métier, mais faites pas ça. Je leur dis toujours texto, faites pas ça pour gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de gagner de l'argent si vous êtes médecin, un bon médecin. C'est pas ça. Je n'ai pas. Je déteste pas l'argent. C'est pas du tout le problème. Le problème, c'est que quand on veut faire sa médecine, c'est-à-dire justement qu'on fait le serment d'Hippocrate et qu'on promet, parce que c'est une promesse, c'est un engagement. D'aider l'indigent, bon. Tout ce qui est dit dans le serment, on va pas le redire ici. C'est pas un métier où vous dites, ben, je vais faire ce métier parce que je voudrais bien gagner ma vie, parce que... Non, c'est un peu particulier quand même. Et si on hésite, si on dit, oh, ben, je ferais bien médecine ou autre chose, ben, je leur dis toujours, faites autre chose. Faites médecine si vous avez vraiment envie de faire médecine.
On engage toute sa personne.
Oui, oh, enfin, qu'on engage sa personne. Oui, oh, je sais pas comment vous répondre. Je pense dans tous les métiers, quand on aime son métier, vous savez, prenez un comédien, quand il est sur scène, il s'engage à 100%. Non, il y a énormément de métiers magnifiques. D'ailleurs, moi, il y a beaucoup de métiers que j'aurais aimé faire, hein. Je veux dire, je trouve qu'il y a plein de métiers magnifiques. Bon, j'ai choisi celui-là parce que voilà, parce que ça me correspondait. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, je prends toujours cet exemple. Je saute un peu du coq à l'âne, mais pas complètement. Je prends cet exemple dans les petits villages autrefois. Quelles étaient les personnalités de base dans un village? Ben, vous avez le médecin, vous avez l'instit et vous avez le curé. Alors, ces trois métiers ne résument pas le monde, bien sûr, mais ils sont basiques, je dirais.
Parce qu'il touche à l'humain.
Ben, parce qu'ils touchent au corps, à l'intellect et à l'âme.
Francine Leca, à demain.
Avec le plus grand plaisir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Claire Pouliborgeot avec Francine Leca. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehorse, réalisation Rafik Zénine, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.